Alors, après que je vous ai bassiné pendant 2 mois avec mes méditations sur la prière, je vais commencer ce début d'année avec une autre série. Peut-être ça va devenir une série, je ne sais pas encore. Hein, c'est on verra. Oui, c'était un peu plus que 2 mois. Voilà. Alors, j'aimerais, au moins je commence aujourd'hui, de parler sur la lecture de la Bible. Alors, et comme j'ai commencé il y a 3 mois, c'est déjà, c'était en septembre, pendant le week-end d'église, j'ai commencé avec la prière « Pourquoi ?». Alors, je commence aujourd'hui. Lire la Bible, mais pourquoi donc? Alors, quand je vous ai parlé de long en large de la prière, j'ai jamais essayé de prouver que Dieu existe hein, et qu'on peut s'adresser directement à lui. Je n'ai pas essayé, ah voilà, il faut croire, quoi. Non, j'ai simplement supposé que Dieu est là, et il entend. Et pour aujourd'hui, pour lire la Bible, c'est la même chose. Je ne vais pas essayer de vous prouver que la Bible est vraiment la parole de Dieu. Ça ne sert à rien. Hein? Avec tous les arguments scientifiques et tout, je ne peux pas vous convaincre. Je parle de ce que moi je crois, et je crois que la Bible est la parole de Dieu. Pendant que je prie, je m'adresse à Dieu. Et quand je lis et je médite la Bible, c'est Dieu qui parle à moi. Je suis d'accord, hein, ce livre n'est pas de première jeunesse. Et pas mal des choses qu'on trouve dans la Bible, voilà, ce sont un peu bizarres. Des histoires de famille vraiment cheloues, des guerres sans merci. Des poèmes incompréhensibles hein, pour un mortel lambda comme nous sommes. Lambda, oui. Voilà. Des lois depuis longtemps dépassées. Des cruautés et des coutumes d'un autre âge. Et sans oublier des généalogies plus longues que mes 2 bras. Hein. Et malgré tout ça, chaque année, presque 80 millions de Bibles sont vendues sur la planète. Chaque année. Et la Bible est traduite en combien de langues? On l'a dit une fois, vous vous rappelez? Hein? 2454 différentes langues. C'est loin le livre le plus vendu. Et elle est seulement talonnée par le catalogue IKEA. Le catalogue IKEA est le deuxième. Mais nous ne voulons pas le laisser. Nous ne voulons pas nous laisser éblouir par les chiffres, parce que si c'est selon les nombres de livres vendus, alors autrement nous allons prier dans quelques années quand le marché chinois s'est ouvert, on va prier à notre IKEA qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Hein? Si c'est vraiment que le nombre qui compte. Chaque contact avec la Bible est une rencontre. C'est Dieu qui veut rentrer en contact avec vous. Comment ce contact se fait? Et comment je peux faciliter ce contact? Ça, c'est probablement le thème pour une autre méditation. Aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur le pourquoi. Pourquoi ce vieux livre de plus que 2000 ans et carrément indispensable pour chacun de nous. C'est vrai, la Bible parle d'une nation, Israël. Elle parle d'une communauté, l'Église. Mais au niveau personnel, elle te place devant ton destin, à toi. Elle te place devant ce Dieu qui a des choses à te dire, à toi et pour ta vie. Vous avez une idée quel livre parle le plus de l'importance de lire la Bible chaque jour? C'est là vraiment la question pour un champion et vous n'avez pas 66 réponses. Hein, hein, 3 réponses peut-être. Quel est le livre qui parle le plus de l'importance de lire la Bible chaque jour? Ancien Testament. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est Deutéronome. Deutéronome. C'est le cinquième livre que Moïse nous a laissé. À l'époque, le peuple se trouve dans les plains de Moab, c'est-à-dire au bord du Jourdain. Et ce Jourdain, c'est le dernier obstacle avant la terre promise. Et face à ce moment crucial où le peuple part vers ces terres, vers ceux que Dieu a toujours préparés depuis longtemps pour eux, à ces terres tant convoitées, mais aussi face à la mort imminente de Moïse, Moïse fait une sorte de répétition. Alors avec le peuple, il se souvient de leur histoire, il rappelle la loi et il renouvelle l'alliance qu'il a faite entre Dieu et le peuple. Et alors, dans ce livre, nous trouvons 3 passages. C'est très important, c'est 3 passages très importants sur notre question du jour. Lire la Bible, mais pourquoi donc? J'explique encore quelque chose. Quand Moïse parle dans ce livre-là, dans les textes qu'on va lire, du loi ou du livre, etc., il faut pas. C'est pas notre Bible d'aujourd'hui. Hein, c'était que des lois, peut-être même pas écrites, ou à peine écrit sur des pierres ou d'une autre façon. Hein. C'est pas, ils sont pas apocalypse, c'est tout ça. Hein. Ils sont que c'est très restreint pour eux. Hein. Seulement pour. Voilà. Comme ça, vous suivez le texte. Comme chaque fois. Non. Je dois en étudier. Hein. Merci. Vous allez voir sur votre feuille, et comme ça, on a vu tous les 3 points, comme ça, si vous ne cherchez pas. Alors, pourquoi lire la Bible? On va voir, c'est une question d'amour, c'est une question de survie, c'est une question de protection. Et il y a une conclusion à la fin. Alors, on va commencer avec notre premier texte. Pourquoi lire la Bible? C'est une question d'amour. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi dans ta maison. Et quand tu marches sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Qu'il soit attaché comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. Je trouvais que c'était intéressant que les deux choses sont tellement liées. La demande d'aimer Dieu de tout notre être et de garder sa parole. Ici, ses commandements. L'évangéliste Jean, il va dire beaucoup plus tard. Alors, dans une de ses lettres, il va dire que ce n'est pas possible d'aimer Dieu et pas de respecter ce que Dieu veut. C'est impossible. Vous ne pouvez pas dire, ah, moi j'aime Dieu, et après vous faites à côté pas ce qu'il dit. Vous ne respectez pas ses paroles, impossible. Il dit, tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas aimer ton frère, par exemple. Gardez la parole, lire la parole chaque jour, méditer, la partager avec les enfants, d'y penser jour et nuit, de s'entourer de sa parole, est une sorte de déclaration d'amour que vous pouvez faire envers votre Dieu. Ici, j'ai dit à s'entourer de sa parole. Je comprends le marqué sur la porte sur le truc de montant de ta porte, etc., sur ton front, c'est s'entourer d'eux. Hein, que cette parole est vraiment tout le temps là. On le voit. Que cette parabole, que cette parole et que cette loi est importante pour toi. Que ceux qui sont dehors, ils voient ce que tu crois. C'est ça l'idée. Hein, c'est pas, je pense, pas forcément l'idée, comme les Juifs, il faut maintenant porter une petite boîte avec les 10 commandements sur le front. Hein, c'est, eux, ils ont compris comme ça, n'importe. Hein, ils peuvent faire, ou ils ont aussi fait des bandeaux avec la parole de Dieu gravés dessus. Voilà, c'était leur interprétation. Je ne crois pas que chacun doit faire ça aujourd'hui. C'est plus, est-ce que c'est visible? Est-ce que ta foi, est-ce que la parole de Dieu est visible dans ta vie? Est-ce que tes autres peuvent voir? Hein, c'est ça, hein, l'idée. Comme aimer Dieu avec tout ton être, cœur, âme et force, Moïse demande à son peuple de consacrer toute la vie à la parole de Dieu. Ton cœur, ta famille, à la maison, quand tu sors du matin au soir, que ce soit visible, comme j'ai dit. Et Moïse insiste. Il insiste. Vous allez voir dans les autres textes. Et dans ces textes-là, contrairement aux deux autres, il n'y a pas de question de conséquences ou de répercussions. Dans ce texte, nous parlons d'un acte d'amour, tout simplement. Si tu dis tu aimes Dieu, alors tu as hâte de lire la parole parce que tu veux connaître comment il est, qu'est-ce qu'il veut de moi, comment je peux vivre encore mieux pour lui. Hein? C'est une question d'amour. Lire et garder la parole de Dieu parce que Dieu veut nous rencontrer avec tout l'amour qu'il a. Alors, le deuxième passage, le premier c'est à cause de son amour ou de notre amour pour lui. Et dans le Deutéronome chapitre 11, j'ai dit c'est une question de survie. Gardez donc bien ces ordres que je vous ai donnés, que je vous donne dans votre cœur et au tréfonds de votre être, qu'ils soient attachés comme un signe sur vos mains et comme une marque sur votre front. Vous voyez, c'est... Il se répète un peu. Hein? Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez. Chez vous, dans votre maison, quand vous marchez sur la route et quand vous coucherez et quand vous leverez. Vous les inscrivez sur les poteaux de votre maison et sur le montant de votre porte. Et là, voilà. Ça, c'est la deuxième partie après l'amour. Et ici, il ajoute autre chose dans ce texte. Alors, vos jours et ceux de vos enfants dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres dureront aussi longtemps que le ciel restera au-dessus de la terre. Lire la Bible nous met en face des innombrables promesses de Dieu que nous avons besoin pour survivre dans ce monde de plus en plus fou. Israël, ici dans le texte, est devant une situation cruciale de son histoire. Ils vont bientôt devenir une nation. Avant, si vous vous rappelez, c'était Abraham, Isaac, Jacob, hein, c'est une histoire de famille. C'était des familles, c'était des nomades qui se déplaçaient un peu partout. Finalement, ils sont partis en Égypte. Et pendant ces 430 ans quand ils étaient en Égypte, ils sont devenus une nation. Mais ils étaient une nation sans terre. Parce qu'ils étaient esclaves aux terres égyptiennes. Alors ils sont devenus un peuple et ils étaient là devant le Jourdain, devant des immenses défis, mais aussi devant des immenses promesses de Dieu. C'est ces promesses, il faut les découvrir. Elles sont dans la Bible. David Wilkerson, oh, je ne sais pas si vous êtes assez jeune pour le... La croix et le poignard, ça vous dit quelque chose? C'est un vieux film sur des guerres de gang à New York, je crois. Toi, tu devrais peut-être encore connaître, avec Nicky Cruz et tout. C'est vraiment... Mais voilà, c'est dans les années 60-70. Hein, c'est, voilà. Alors, il a écrit un livre sur les promesses de Dieu. Et il a trouvé 866 promesses de Dieu dans la Bible. 866 fois où Dieu dit vous pouvez compter sur toi, sur moi, etc. ou à différentes choses. Et sont là. La Bible est à lire et à les découvrir. Notre survie en dépend. Vous savez, à l'époque, avec Israël, ça a commencé en fanfare, on dit. Enfin, vraiment, hein, ça a commencé très fort. Ils ont vite conquis tout le pays. Mais très vite, ils ont oublié. Ils ont oublié Dieu. Ils ont même oublié la parole. Ils l'ont laissé à côté. Jusqu'au moment où ils n'avaient plus de parole de Dieu du tout dans le peuple. Ils ont même perdu le dernier exemplaire. Vous vous rappelez peut-être Ézéchiel qui a trouvé finalement quand ils ont cherché, quand ils voulaient refaire un peu le temple. Waouh, ils ont trouvé le dernier exemple de la Bible. Waouh, ça c'est une fête là. Enfin retrouvé. Notre église de Bassin de Pompée, l'église avec un grand E, et même l'humanité entière est aujourd'hui devant une situation cruciale de son histoire. Si nous oublions les innombrables promesses de Dieu, l'éternel créateur du ciel et la terre, nous allons foncer directement dans le mur. Je sais, le monde n'est pas prêt pour la parole de Dieu, n'est pas prêt d'écouter ce que dit la Bible. Mais nous, est-ce que nous sommes prêts? L'Église a un avenir si nous nous basons sur l'essentiel. L'Église a un avenir quand nous continuons à faire cette parole de Dieu le centre de notre vie. Parce qu'à la fin, la parole reste. Jésus a dit, si j'ai dit ça, quelqu'un rappelle un verset? Le ciel et la terre passeront. Voilà. Mais mes paroles ne passeront jamais. Jamais. Tout peut disparaître. Des pays, des rois. Mais sa parole ne disparaît jamais. Et c'est à cette parole qu'il faut, nous en tant qu'Église, hein, nous en tant que pays, je dirais presque, hein, s'attacher. Si on veut survivre dans ce monde fou. C'était Matthieu 24, 20, 35. Lire la Bible, mais pourquoi donc? C'est notre question. Je vous ai parlé que de 1, c'est une question d'amour. De 2, une question de survie. Et finalement de 3, une question de protection. Je vais dire maintenant ça comme ça. Quand il accédera au trône, il écrira sur un livre pour son usage personnel une copie de cette loi que lui communiqueront les prêtres lévites. Cette copie ne le quittera pas. Il y lira tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu en obéissant à toute cette loi et en appliquant toutes ses ordonnances. Ainsi, je me suis entraîné, mais je ne sais pas si j'arrive. Hein. Alors, il ne s'enorgueillira. Non, j'arrive pas. S'enorgueillira pas pour s'élever au-dessus de ses compatriotes. Il ne se déviera de la loi ni dans un sens ni dans un autre. De la sorte qu'il assurera ainsi qu'à ses descendants un long règne sur le trône d'Israël. mais quel est le contexte ici? Quand il accédera au trône. Ici, Moïse dit simplement, un jour plus tard, le peuple d'Israël va aussi demander un roi. C'est ce qui est arrivé, finalement. Hein. Et s'il y a un roi, alors il y a des conséquences pour vous. Et cet roi qui va vous diriger doit aussi être attaché à la parole de Dieu. C'est ça, ici. Et moi, j'ose dire, ce qui est vrai pour un roi est aussi vrai pour nous. Hein? Lire la Bible tous les jours m'aide comme rien d'autre à connaître Dieu de plus en plus. Et, de toute façon, moi, je crois que le premier but de la Bible est pas nous raconter des histoires. Et pas nous donner des lois de Dieu ou quelque chose comme ça. Le premier but est, créer une relation où on nous fait connaître Dieu. C'est ça. Connaître Dieu de plus en plus. C'est ça le but de tout ça. 1200 pages. Connaître Dieu. Cette connaissance m'aide finalement à la considérer à sa juste valeur. Qui est Dieu à sa juste valeur? C'est ce que la Bible dit, craindre l'Éternel. Je le considère comme il est vraiment. Et cette connaissance de Dieu est une protection pour nous. Pas une protection devant un Dieu à craindre, vous allez comprendre. À craindre parce qu'il veut faire du mal, etc. Lire la Bible et la garder dans notre cœur et une protection devant moi-même. C'est une sorte de bouclier contre mes propres démons. Découvrir que Dieu est le maître de l'univers aide certainement beaucoup pour quelqu'un qui a du mal avec son orgueil. Découvrir que Dieu est un Dieu de grâce et une aide véritable pour tous ceux qui ont du mal avec l'humilité. Découvrir que Dieu est un Dieu de pardon peut fortement m'interpeller si j'ai du mal à pardonner moi-même. Vous comprenez? Vous saisissez? Découvrir que Dieu est un Dieu de création peut m'encourager de ne pas gaspiller et faire attention à garder la nature. Découvrir que Dieu est un Dieu de la vérité et un Dieu qui déteste le mensonge peut m'inciter de ne pas mentir et arrêter les demi-mensonges, ou les demi-vérités, pardon. Découvrir que Dieu est capable de dire il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous unis en Jésus-Christ, nous protège de tout excès de machisme ou patriarchisme ou je ne sais pas comment dire ça, ou de féminisme. Hein. Parce que Dieu est un Dieu extrêmement juste. Vous voyez le topo? Je pourrais continuer comme ça. Vous pouvez découvrir la Bible et remarquer, oui, mais ça, c'est pour moi, c'est pour notre vie. Plus que je connais Dieu, plus que je remarque, oui, mais il y a à dire des choses à moi, aujourd'hui, dans notre société. Pour tous les problèmes de gaspillage ou ne sais pas quoi, il a son mot à dire dans sa parole. Pour ça, j'ai dit, c'est une protection. La parole qui nous protège de nous-mêmes, la parole qui protège le monde de mes innombrables faiblesses, la parole qui m'encourage de découvrir Dieu et avec lui, moi-même. Parce que plus que je découvre Dieu, plus je découvre qui je suis et mes faiblesses. La parole qui m'encourage de changer de vie et de m'aligner à l'image de Dieu. Et je conclue. Je conclue par cette phrase géniale. C'est important de lire la Bible. Pourquoi? Parce que ce n'est pas simplement une coutume chrétienne. Ce n'est pas parce que le pasteur le dit. Ce n'est pas pour faire son devoir. Il faut encore lire autrement. J'ai mauvaise conscience. Lire la Bible chaque jour que Dieu fait, parce que c'est une question d'amour. Une question de répondre à ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est une question de survie. Comment je peux vivre aujourd'hui avec, dans ce monde, avec la parole de Dieu. Et c'est une question de protection. Mais pour ça, il faut que cette parole remplisse nos cœurs, nos familles, vos journées, vos maisons, vos vies entières. Je sais, vous ne pouvez pas lire la Bible toute la journée. Et souvent, c'est même 5 minutes qui sont trop parce qu'on ne les trouve pas. Alors, je vous dis simplement, et pour ça, je vous ai marqué après, prenez alors un verset par jour. Par exemple, et pourquoi pas, psaume 23, verset 1. Vous commencez demain avec ce verset-là. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dites-le le matin, midi et soir. L'Éternel est mon berger, il ne manquerai de rien. Priez-le, pensez-y. Un verset comme ça vous laisse grandir l'amour de Dieu en vous. L'Éternel est mon berger, il ne me manquerait de rien. Ça me laisse grandir l'amour de Dieu en moi. Vous laisse survivre dans les difficultés d'une rude journée. L'Éternel est mon berger, il ne manquerait de rien. Et c'est une formidable protection contre tout esprit de souci. Je ne manquerai de rien chaque jour. Vous avez compris? Un petit verset, hein, il ne faut pas plus. Hein. Et les 3 choses que je vous ai dit, pourquoi? Ça peut se réaliser dans votre vie très facilement. Là où votre amour pour Dieu peut grandir. Là où vous remarquez que vous arrivez à survivre un peu plus facilement. Et là où vous remarquez, ah waouh, Dieu est là qui me protège dans ma vie. Alors vous pouvez avancer dans la foi avec Jésus-Christ. Oui, lire la Bible peut changer votre vie. Et mardi, vous prenez un autre verset, peut-être le verset 2, vous faites comme vous voulez. Hein. Et comme ça, vous pouvez apprendre. Voilà, pourquoi lire la Bible, c'est important.